Time Time Sport.
Magnifique. Vous faites du sport?
Même pas.
Résultats, infos, analyse.
À cette heure-ci, vous êtes en train de regarder le foot, c'est pas le moment de le déranger.
Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman.
Ça c'est mesquis, ils ont fait deuxième à Comontana, c'est ce qu'il a.
Sur Beurre FM.
Sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce lundi 3 octobre 2022, 20h pétante. Et oui, c'est l'horaire de Time Sport, votre quotidien sportif sur la radio de la diversité qu'est Beurre FM. Au sujet de cette émission, ce lundi soir, début de semaine, on parlera de quoi? De Marseille et la bande à Tudor, en vue peut-être avec ce fameux titre de Ligue 1 Uber Eats. On reviendra aussi sur ce fameux mondial au Qatar 2022. Dérange-t-il ce mondial au Qatar? On en parlera avec toute l'équipe de Time Sport. Et pourquoi cet orage contre l'écurie Red Bull? Dans les paddocks, ça promet. Il y a de la bataille, pas que dans le basket et aussi dans le football. Il y a aussi de la bataille dans les écuries de F1. Pour réagir, rien de plus simple. Le 01 53 48 3000. D'ailleurs, le débat du jour, on vous le rappelle, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, sans le Qatar, le football français peut-il survivre aujourd'hui? Voilà, le numéro du standard, on le rappelle pour tout le monde, le 01 53 48 3000. On vous fait remporter un magnifique ouvrage cette semaine. C'est Les années Hamilton par Frédéric Ferré aux éditions Solar. Vous voulez le remporter, vous nous appelez, un petit clin d'œil, un petit coucou, une réaction aussi au sujet de cette émission en composant le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Allez, c'est parti, Gogo Time Sport, on y va.
Time Sport.
Et ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura notre consultant Abdel. Comment ça va Abdel?
Ça va Bilal, bonsoir à toutes et à tous, pardon. Très content d'être là pour débuter la semaine avec tout le monde qui est autour du plateau.
Un magnifique plateau ce soir. Jason est avec nous. Voilà Jason, comment ça va Jason? Ça va, fait longtemps.
Ça va très bien, très heureux d'être là. Un bon week-end foot et pressé d'en débattre avec vous.
Eh oui, nous aussi, avec Alexis. Ça va Alexis?
Salut Bilal, bonsoir à tous. Oui, ça va très bien, un très beau week-end de sport en général, hein, de la F1, du foot.
Il y a eu des buts aussi rugby. Alexis, hein.
Ouais, il y a eu beaucoup de buts.
Foden, Haaland.
Ouais, des beaux triplés.
Ouais, c'est ça. Pas mal. Boula, il a aimé aussi ce match-là. Comment ça va, Boula? Bonsoir.
Ça va, Maliko, à tout le monde.
Voilà. Aïkou, salam, on remonte la balagade.
On va débattre de tous les sujets.
Voilà, Boula, il nous fait un grand sourire. Justement, là, avec nous pour la première fois, c'est Nasser. Nasser, bonsoir. Comment ça va?
Bonsoir à tous, merci, bonsoir à tous. Ça fait très très plaisir d'être là ce soir sur cette radio Beurre FM.
Et c'est Beurre FM.
Un grand grand plaisir,
oui,
ce soir d'être là.
Traverse le temps, les années, Beurre FM. Eh ben nous aussi, c'est un grand plaisir d'accueillir un enfant du pays, si je peux me permettre, de la région francilienne, la région Île-de-France, c'est ça?
Exactement.
Ouais, Nasser.
Du 93 de Saint-Denis.
Voilà, Saint-Denis, un petit clin d'œil à Saint-Denis. On nous écoute beaucoup du côté de Saint-Denis, y compris dans le 19e et voire le 18e. Petit clin d'œil à Vivien et aussi à notre réalisateur. Lui, il est italien, il connaît bien, lui. Eh ouais, c'est Giovanni. Comment ça va, Giovanni?
Alhamdulillah.
Ah ben,
l'italien qui est
Alhamdulillah. Très italien.
Ah ben oui.
Très, très italien, je constate.
C'est ça la diversité.
L'expression
est
répandue vers Milan.
On appelle ça la diversité. Hein. Pour rentrer au stade.
Ah ben justement, l'Olympique de Marseille, en vue peut-être ce titre de champion de France, le championnat de France, Ligue 1 Uber Eats, ça fait ton plaisir aux supporters marseillais, pas aux parisiens, voire ailleurs aussi. Mais Marseille fait fort. 3-0 quand même, Jason. Allez, plus sérieusement.
Au contraire, ça fait plaisir aux parisiens. Si on peut faire on peut redonner un peu de piment au classico qui devenait, au classique, pardon, parce que certains, oui, certains n'aiment pas le classico en France.
Osiris.
Si on peut redonner un peu de piment à ce classique en faisant un duel pour le titre, pourquoi pas? Même si pour moi, logiquement, le PSG va se détacher dès la prochaine rencontre, le prochain classique qui arrive. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir l'OM à ce niveau-là, vraiment. Et on espère que cette fois en Ligue des Champions,
la Ligue des Champions, dès demain,
voir autre chose.
C'est vrai, Marseille, ouais. Abdel, après, on poursuit avec Alexis aussi.
Je comprends ce que veut dire Jason. Après, je pense qu'eux doivent être sur une continuité d'être régulièrement sur le podium et d'aller régulièrement en Ligue des Champions, justement en étant performant en championnat. Tu dis 3-0 vendredi. Alors, face à Angers, c'est un score qui est un peu trompe-l'œil, parce que pour ceux qui ont regardé le match, Marseille n'a pas été aussi dominateur que ça. Angers s'est créé pas mal d'occasions. Donc à partir de là, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que Marseille a gagné, et peut-être que l'année dernière il n'aurait pas gagné ce genre de match. Après, Jason parle du classique qui arrive contre le PSG. Il y a des déplacements, il y a des matchs qui vont arriver, notamment Ajaccio, il va arriver le PSG, il va arriver Lens, Strasbourg, Lyon et Monaco. Donc ça, c'est des grands tests qui vont arriver dans les prochaines semaines. jusqu'à la Coupe du Monde, et Marseille pour justement être compétitif jusqu'à cette période-là devra négocier ses rendez-vous correctement. Surtout que j'ai regardé l'effectif et il n'y a pas tant de joueurs que ça, en tout cas pour moi, qui partiront en Coupe du Monde. Donc si tu arrives à bien terminer jusque sur cette phase qui va être coupée, la phase aller, tu auras des joueurs qui pourront se reposer, justement aussi avec un nouveau coach qui est Igor Tudor. Il y a pas eu la possibilité de faire énormément de turnover parce que il y a des jeunes joueurs, il y a des joueurs qui avaient besoin de se relancer et tu pouvais pas les mettre comme ça à la place de cadres, de joueurs qui s'étaient implantés. Donc à partir de là, ils auront le temps de travailler justement et d'aborder les choses un peu plus sérieusement si ils finissent bien jusqu'à l'arrêt du championnat. Mais en tout cas, moi je suis très content pour Tudor parce que c'est vraiment un coach.
Ouais, il a été décrié quand même au début.
Il a été
décrié. Un peu comme Galtier.
Je termine rapidement. Qui prend son temps et surtout, il a fait un changement qui paraît anodin. Mais depuis le début de saison, Gigot jouait en défense centrale, enfin axe, et Balerdi à gauche. Ouais, il a réussi à changer ça et peut-être qu'on a senti un Balerdi un peu meilleur ce vendredi. Donc peut-être que ça va donner des idées pour dans la continuité des prochains matchs.
En Ligue 1, Hubert, et c'est même en Ligue des Champions, Alexis.
Oui,
avec Moula aussi.
Jason, c'est-à-dire qu'effectivement Marseille joue plutôt bien depuis le début de la saison, il y a un bel effectif, ça tourne, avec un Tudor qui était, on le rappelle, quand même presque viré à la fin des matchs amicaux, hein. Ouais. Ça c'est quelque chose de très
sifflé,
très rare.
Dès son premier match, il n'avait rien fait, le mec.
Ouais, il y a zéro match officiel.
Il avait été sifflé au Vélodrome d'entrée.
Mais c'est vrai que ça se fera surtout sur Paris. Si Paris garde le rythme de la saison dernière, c'est quasiment impossible d'aller les chercher. Maintenant, si c'est comme il y a deux ans, ils ont été champions, eh ben il y a peut-être de la place. Et justement, pour revenir sur ce que disait Abdel, fait de pas forcément de dominer des matchs, mais de les gagner, c'est peut-être ça aussi qui fait la différence entre une bonne saison et une grande saison.
Ouais. Oula.
Moi, ce que j'ai à dire sur.
On va rejoindre aussi Nasser.
Moi, ce que j'ai à dire sur l'Olympique de Marseille.
C'est quoi?
C'est déjà défensivement, c'est plus solide que l'année dernière. On est au niveau de l'assise défensif et tu sens que c'est un entraîneur qui fait travailler certains joueurs qui n'avaient pas l'habitude de travailler et de bosser. Et c'est pour ça que le problème que Tudor a eu avec les joueurs, il sentait que physiquement, il avait des joueurs qui étaient et il les a piqués dans leur amour propre. Et là, tu sens que ce qu'il a fait, c'est bénéfique. Parce que quand tu regardes les résultats qu'ils ont aujourd'hui, c'est quelque part, il y a ce travail qui est fait en amont avec les joueurs et les joueurs ont compris le message de Tudor. C'est pour ça qu'ils ont des résultats en championnat.
Ouais, c'est pas mal.
Maintenant, quand Jason, il dit que PSG, ils seront loin, je pense le contraire parce que je pense que c'est très très solide. Je pense que c'est très très solide l'Olympique de Marseille. On s'en rend pas compte, mais c'est très très solide. Déjà quand je vois un joueur comme Gigot,
un bon joueur à Marseille.
Ouais.
Hein?
Ah oui. Ouais. L'international congolais qui a été recruté.
Aussi.
Comment?
C'est vrai.
Mbemba derrière.
Ouais.
Il est pas mal.
Mais Gigot qui est même pas international. Gigot qui est même pas international français.
Ouais.
Qui a une maman, qui a une grand-mère algérienne.
Ouais, ça parle, voilà. Un petit peu de.
Voilà,
c'est vrai.
Qui a une grand-mère algérienne.
Et s'il nous écoute ce soir en plus.
Je pense qu'il veut pas, jouer, il veut peut-être pas jouer en équipe nationale d'Algérie. Mais il y a ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que le problème de l'équipe de France, c'est que défensivement, on fait pas appel à quelqu'un comme Gigot qui nous fait un début de saison exceptionnel défensivement.
Allez, Nasser, on l'écoute.
Juste pour parler de l'Olympique de Marseille, je voudrais quand même ajouter quand même que Longoria fait quand même un gros travail. Il est arrivé, il a essayé d'apaiser les choses. Je pense que, en fait, malgré les résultats qui sont pour le moment décevants, mais je crois.
En Ligue des Champions, en tout cas.
Oui, je parle en Ligue des Champions, mais je pense que demain, c'est peut-être la révolte, demain face au Sporting, un match qui est très important pour l'Olympique de Marseille. Donc, je pense que l'Olympique de Marseille, elle revient bien. Ce résultat à Angers, et malgré que la première mi-temps n'a pas été, vraiment dans une capacité à pouvoir dominer la rencontre en seconde période, l'Olympique de Marseille a fait le nécessaire, a fait le travail. Et j'espère, je le souhaite, que Dimitri Payet revienne dans le 11, parce que comme Dimitri Payet apporte avec Guendouzi au milieu de terrain. Et j'aimerais aussi la titularisation d'Harit, parce que quand même, c'est quand même
Pablo Longoria a aussi dit, pour rebondir
sur Nasser,
L'objectif du club là actuellement, c'est surtout une qualification régulière à la Ligue des Champions. Dans un premier temps, Pablo Longoria, c'est ce qu'il disait dans une interview récemment, c'est de revoir l'OM.
C'est bien que tu le rajoutes.
C'est de revoir l'OM régulièrement en Ligue des Champions. Alors peut-être qu'ils vont encore, entre guillemets, juste le mot du terme, se casser la gueule à chaque fois au premier tour, mais au bon moment, à force de la rentrée, de reprendre l'habitude et pas disparaître.
Alexis.
Parce que malheureusement, l'OM, ces dernières années, c'était on vient, on prend une valise, on revient dans deux
ans. Zéro point,
c'est compliqué d'enchaîner.
Ouais.
Là, on voit l'OM qui s'est qualifié l'année dernière.
Ouais.
Là, comment ça part, comme l'a dit Abdel, ils vont revenir après le mondial, ils vont pas perdre normalement beaucoup de joueurs.
Ouais.
La troisième place, en tout cas les trois premières places, c'est jouable.
Ça sera à l'avantage de Marseille.
Voilà, c'est l'objectif de l'OM, c'est dans un premier temps
Longoria, se requalifier pour la Champions League. Nasser a raison. Abdel, non, c'est Alexis
pour,
Aboula.
C'est pour ça que je le disais en début d'intervention, dans le sens où moi je suis pas, même si les résultats de Marseille sont un peu difficiles en Ligue des Champions.
Tu vois loin en fait.
Voilà, ouais. pour moi c'est de revenir régulièrement parce que on avait ce débat de se dire est-ce que vous voulez voir Marseille se qualifier pour les huitièmes de finale et ne pas faire un bon championnat. Beaucoup de Marseillais étaient plutôt sur le fait de consolider cette seconde place assez régulière. Donc voilà, après c'est pour ça qu'un coach comme Igor Tudor, tous les coachs apprennent quand ils connaissent de nouvelles échéances. Igor Tudor a très bien réussi pour le moment en termes de résultats et en termes de management. Chose qui nous inquiétait un peu avant, quand on voyait son bilan, avant qu'il arrive du côté de la Canebière. Maintenant, en Ligue des Champions, c'est une compétition qu'il ne connaît pas. Ça s'est joué à des détails.
Oui,
ça s'est joué un petit peu d'expérience. Donc, à partir de là aussi, pour moi, il faut de la continuité. Pas que dans la qualification, il faut de la continuité avec les joueurs qu'il y a. Parce que c'est vrai, comme le dit Nasser, il y a un très bon travail de Pablo Longoria, mais il y a eu des prêts, il y a eu des joueurs qui arrivent un petit peu.
Ça revient. La stabilité, Abdel.
Et je pense que si tu arrives à garder un projet, des joueurs sur 2-3 ans, ça peut être intéressant justement pour redorer encore plus le blason sur la scène européenne. En tout cas,
Alexis, on poursuit avec vous là aussi
sur la Ligue des Champions. Faut pas oublier, alors oui, on pourrait me dire Tottenham, Francfort et Sporting, c'est pas si fort, mais enfin il y a quand même un finaliste dans les 5 dernières années de la C1.
Quand même, hein.
Il y a ceux qui gagnent l'année dernière la C3, donc et puis Sporting c'est une grosse équipe au Portugal, ils sont premiers du groupe, ils font des super matchs. Donc oui, ça peut paraître, on pouvait croire au début que ce serait peut-être un groupe facile, ceux qui connaissent pas forcément les équipes, mais le groupe est pas évident. Il y a pas beaucoup d'équipes,
c'est la Ligue des Champions.
Ah oui, il y a pas beaucoup d'équipes, ça serait sorti, voilà. Enfin,
puis il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que c'est le budget. Ils ont pas le budget nécessaire. Et
c'est pas le Paris Saint-Germain.
Il a une qualité, Longoria, c'est qu'il travaille en cohérence avec son coach,
avec ses moyens.
Et ouais, non mais quand tu travailles en cohérence, travailles avec ton coach,
c'est important, Boulard.
Rapport, parce que faut pas oublier que il avait un effectif qui était prévu avec Sampoli. Ils ont complètement changé de philosophie par rapport à l'arrivée de Tudor. C'est-à-dire que ils ont demandé à Tudor qu'est-ce que tu as besoin comme joueur.
De ce côté-là,
la qualité que Longoria a,
et même Abdel,
je suis content que Nasser le surnomme Longoria, et ben que c'est la première fois que je vois un directeur sportif faire confiance.
Merci Boula, c'est là où je voulais revenir. Non mais c'est vrai, Abdel est suit de près ces jeunes pépites à travers le pays, mais aussi Nasser avec ça, on n'a plus vu un homme comme Longoria. Il était décrié, non mais c'est vrai. Hein, il a été moqué, il a été quand même, Longoria. Il a fait du boulot incroyable. Moi j'aurais voulu par exemple un gars comme Longoria au Paris Saint-Germain avec un chéquier illimité. Mais faire du boulot, mais j'y pense même pas, ça aurait été incroyable, quoi. On vous écoute. Non mais vraiment,
tu peux pas avec Paris.
C'est très compliqué. Allez Nasser.
Très respecté en Europe, il faut quand même rappeler son âge. Hein. C'est un garçon qui a quand même moins de 40 ans.
34 ans.
Il n'y en a pas beaucoup des directeurs sportifs.
Il est plus jeune que Steve Mandanda. Et Payet, il a le même âge que Dimitri Payet.
C'est fou.
Il a une grosse qualité, c'est que c'est un ancien scout. C'est un mec qui a bourlingué sur les terrains, qui a été chercher les vedettes.
C'est naturel, c'est dans la
flair. Il a un rôle qui est un peu déguisé de toute façon. En réalité, c'est pas forcément.
Alors Nasser, reviens à toi Abdel.
Pour revenir sur Longoria et pour finir sur lui, c'est que vraiment,
Marseille.
Je crois que par rapport à l'Olympique de Marseille, c'est quelqu'un qui a vraiment ramené de la sérénité dans ce club. On le voit, hein. On le voit tous les week-ends à domicile. Moi, je vois le stade plein, je vois les gens
toujours
heureux,
plein.
Je vois du spectacle, je vois une équipe qui est combattante. Ça va être difficile de venir chercher des points dans les prochaines semaines du côté de l'Olympique de Marseille dans les prochaines semaines. Je le dis ce soir.
Et le dit Nasser. Il a pas honte. Allez, rapide avant la pause. Abdel,
rapidement. Pour revenir, juste une dernière chose sur Longoria, sur la sérénité, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Nasser. Il faut se souvenir de quand il y avait les rumeurs sur Ronaldo. Il est quand même descendu au front Longoria pour défendre son mercato et dire arrêtez d'essayer de me savonner la planche, je veux dire. Et là, il a les fruits.
Ça s'est passé.
Totalement.
C'était bien.
La sérénité, c'est exactement ce que disait Nasser.
Il faut qu'il y ait le maillot de l'OM.
Il faut des joueurs aussi qui aiment le club. Tout à l'heure, on parlait d'Harit. Il a fait une saison qu'il a un petit peu relancé après des
Harit qui a refusé. refusé plusieurs clubs pour
un passage difficile à
et Jibril Abdel.
Et franchement, il a attendu et au dernier moment, il est revenu du côté de l'OM. Donc voilà, il faut aussi des joueurs qui aiment le club. Parce que c'est ça aussi qui fait monter et qui crée aussi un pas de problème dans un vestiaire.
À l'image de Guendouzi, Abdel, parce que c'est vrai qu'on le voit. C'est un garçon qui arrivait d'Arsenal, qui était quand même hors jeu.
Avec une étiquette d'ancien Parisien, pourtant.
Et puis il s'est attaché à cette culture marseillaise.
Ils lui ont donné beaucoup d'amour. Quand il est à fond, il lui donne beaucoup d'amour.
Merci Nasser et aussi à toute l'équipe de TAM Sport. On va revenir, on va marquer d'une courte pause avant de revenir avec toute l'équipe de TAM Sport pour débattre en cours sur cette fameuse Ligue 1 Uber Eats et sans oublier aussi le Mondial au Qatar. Voilà, un petit clin d'œil au U13 de Sartrouville qui nous écoute chaque fois. C'est le lundi soir, hein, le jeudi soir. On a l'impression quand on retrouve les pépites du football avec la chronique d'Abdel. Voilà, et il faudrait aussi signer leur fameuse pétition. Voilà, touche pas à mon club, les U13 de Sartrouville. Et aussi un petit clin d'œil à Kamel. Voilà, allez, on se retrouve rapidement après la pause. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 21h, toujours en compagnie de notre consultant Jason. Voilà, voilà. Il est là avec consultant Abdel et aussi. Boula est là. Et Nasser nous fait le privilège de nous accompagner aussi durant cette heure. Là, n'est-ce
toujours,
pas, Nasser?
Toujours avec un réel plaisir.
Nasser élabore un magnifique costard. Il va nous sortir 2-3 joueurs là pour les prochaines émissions. Rien comprendre, voilà. Et d'un côté Jason est rempli les petits papiers, c'est cool ça. Boula est toujours là, le 01 53 48 3000, allez, place au débat du jour.
Time Sport. La parole des sociaux.
Eh oui, justement, on vous la donne cette parole avec Giovanni au 01 53 48 3000. Eh oui, ça fait sourire Abdel, mais pas que. Le mondial au Qatar dérange-t-il? Et plus sérieusement, sans le Qatar, le football français peut-il survivre aujourd'hui? Alexis, allez Jason, on vous écoute justement.
Sur le mondial au Qatar, il y a quand même un peu d'hypocrisie générale. C'est quand même il y a 12 ans l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Entre-temps, personne s'en est offusqué. Et là, je pense qu'il y a notamment chez les politique, énormément de personnes qui veulent faire un buzz à bas coût. Voilà, c'est ça, un petit buzz gratuit au début de l'automne, ça fait toujours du bien ça, pour se remettre en selle politiquement. Donc c'est un peu facile, quoi. Après, au moins à titre personnel, j'étais contre déjà il y a 12 ans pour des questions écologiques, mais aussi pour des questions sportives. Je retrouve quand même avec la Coupe du Monde en hiver. Mais c'était il y a 12 ans qu'il fallait le faire, il y a 10 ans, il y a 8 ans. Et là, les gars, c'est dans 2 mois, donc c'est un peu facile. Là, quand même.
Mention spéciale à Hummel, la marque, le sponsor du Danemark qui nous a fait, qui nous ont fait des maillots anti-Qatar. Donc en fait ils vont quand même prendre de l'argent sur ces maillots, mais incroyable. ils sont contre le Qatar, mais leurs maillots vont aller au Qatar, ils vont prendre de l'argent de la Coupe du Monde, mais ils sont contre cette Coupe du Monde. Comme l'a dit Alexis, comme tout le monde je pense peut le constater, c'est un peu le bal des hypocrites. Je dis pas que tout est parfait, et bien évidemment il y a plein de choses qui peuvent être
la politique s'en mêle, on le dit, on a certaines villes à travers l'Hexagone, à travers le pays, tout comme Bordeaux, qui refuse justement cela. Abdel, alors.
Alors déjà pour ça, là on parle de récupération.
La récupération,
monde,
elle est là.
La Coupe du Monde, elle va se dérouler entre novembre et décembre.
Mi-novembre et avant les périodes de fêtes de fin d'année.
En France, les températures, elles commencent à être basses. Il y a personne qui allait se rassembler devant un écran géant. Donc ça, faut arrêter les bêtises, les insurgés du dimanche. Et après, à partir de là. Ça a mis du beurre dans les épinards à tout le monde. Faut pas croire que le Qatar, ils sont arrivés, c'est pas un pays de football du tout, ils sont arrivés il y a 12 ans ou 11 ans avec les Qataris au PSG. Comme par hasard, ils ont l'attribution de la Coupe du Monde, alors qu'il y a des pays qui montent des projets, qui font ça de manière plus les propre, je mets ça avec des guillemets, parce qu'il y a toujours des magouilles, que ce soit la FIFA, le CIO, etc. Donc c'est toujours un peu bizarre, mais voilà, c'est un peu hypocrite, dans le sens où pour moi, déjà, on parle d'humain, ça c'est arrivé, c'est vrai malheureusement.
Bien sûr.
Après, mais déjà le fait que on veut regarder du foot et qu'on ait l'habitude tous les 4 ans de voir cette compétition se dérouler
aux quatre
de
coins du globe
à juillet, déjà le fait de la délocaliser de novembre à décembre, en plus de ça, faire que des choses à 99% artificielles, voilà. Et mais pour parler d'une Coupe du Monde plus récente, on sait qu'actuellement il y a le conflit entre la Russie et l'Ukraine. En 2018, la Russie était déjà en train de bombarder ou d'essayer d'occuper l'Ukraine. Donc c'est un peu hypocrite. Et après on sait très bien que t'as envie d'avoir une Coupe du Monde rentable. Ça veut dire que si tu arrives à trouver des ouvriers, malheureusement, qui sont en difficulté, eh ben, tu dépenses pas beaucoup dans la main d'œuvre. Donc, en termes de bénéfices et de retour sur investissement, alors, c'est très triste de parler comme ça, ouais, mais tu dépenses peu. Et voilà, au final, tu t'en fiches un petit peu des conditions.
Il n'y a pas que le Qatar qui a procédé peut-être de la sorte aussi.
Mais tous, ils ont même mis Zidane qui a été accusé de faire la promotion,
avoir David Beckham aussi qui s'est fait pointer.
Tout ce que je sais dans cette Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde politique.
Ça a toujours été, Boula.
Là, on est en plein dedans. T'as le Qatar, ils ont pris le PSG. Ouais. Déjà, il y avait une stratégie politique à l'intérieur, par rapport à leur arrivée au PSG. Tout était calculé. Derrière, on leur donne la Coupe du Monde.
Ouais.
Ce qui veut dire, moi je trouve un truc bien, c'est que c'est un pays musulman.
Ouais.
Et je trouve
ça,
de
c'est
la donner.
Ouais.
Non, mais c'est pas que moi.
Bien sûr.
De la donner à un pays musulman, déjà c'est bien.
Ouais.
Mais, aujourd'hui c'est le Qatar, tu la donnes à un pays musulman. Tu regardes quel pays musulman a déjà fait la Coupe du Monde.
Mais pourquoi ils l'ont donné à ce pays musulman là?
Non mais
ce qui
m'intéresse, c'est qu'avec les valeurs religieuses du Qatar, ils peuvent aujourd'hui organiser une Coupe du Monde avec l'Europe, avec un pays musulman. Déjà, moi je trouve que c'est quelque chose de bien. Maintenant, tu regardes bien le Qatar, ils sont prêts à mettre de l'alcool. Tu regardes que politiquement, eux dans leur tête, c'est une stratégie commerciale.
Ouais.
Mondial par rapport aux 40 ans ou 50 ans qui vont venir, il y a toute une stratégie derrière par rapport à faire montrer le Qatar en Europe et mondialement.
À long terme.
Il y a tout un business parce que le pétrole n'est pas éternel.
Ouais.
Le pétrole n'est pas éternel et ils sont en train de mettre une stratégie après le pétrole.
Bien sûr. Oula. Aussi, c'est d'accueillir les phases finales de Coupe du Monde,
Alexis,
dans presque tous les pays. Oui, Alexis,
oui, pour
on t'écoute.
Sur Alors, Abdel, voilà, sur ce qu'il disait tout à l'heure sur la rentabilité économique. Mais parce que c'est vrai que le Qatar, le problème des stades qu'ils ont construits, c'est qu'après, ils ne vont servir à rien. Ils seront vides 95% de
l'année. Ils ont été.
Donc, il ne se passera rien. C'est un peu comme les stades qui ont été faits dans l'arrière-pays brésilien, dans la Coupe du Monde en 2014, notamment à Manaus, qui sont totalement vides et absolument pas occupés.
En Grèce aussi, au JO d'Athènes.
Oui, effectivement, il y a une idée de rentabilité derrière. Et pour revenir sur ce que disait très bien Boula, c'est que effectivement c'est une stratégie de soft power qatari. Ils l'ont fait dans d'autres sports, ils l'ont fait en handball, ça a plutôt bien marché. Ils l'ont fait aussi dans d'autres domaines, dans l'art notamment. Ils ont racheté la moitié de Paris, donc on est au courant aussi
dans le bâti. Beaucoup en France.
Donc il y a une stratégie de diversification de leur de leur pion.
Bien sûr. Alors Nasser,
ce soir c'est une émission de football, on va parler politique, c'est vrai, mais c'est vrai que moi j'ai envie de défendre un petit peu le Qatar aussi.
Alors
je suis là parce que j'ai envie de dire que le Qatar, c'est quand même un pays qui nous apporte beaucoup ici en France.
En France,
qui fait travailler beaucoup de gens.
On a l'impression que des fois pas mal de personnes l'oublient.
Ouais, on l'oublie.
Ah Nasser.
Et puis ça reste là avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie.
Alors
vous savez qu'il y a eu ce conflit. Eh ben, il faut quand même se rapprocher du Qatar, qui est quand même un pays qui est un gros producteur de gaz. Et donc ça, c'est très très important de se rapprocher de Doha. Et puis en plus, il faut le dire aussi, ils ont investi dans le Paris Saint-Germain. S'il y a la visibilité de la Ligue 1, mon avis, c'est grâce aussi au Qatar. Et donc pour moi, le Qatar a toute sa place. Et on arrête un petit peu qu'on parle football, qu'on parle de cette Coupe du Monde.
Justement.
Dans le bon contact. Parce que après, pour lutter effectivement contre
le débat du jour,
exactement.
Sans le Qatar, le football français peut-il survivre? Le Qatar a apporté plein de stars, mais faut le dire, Jason. Aujourd'hui, grâce au Qatar, peut-être l'Olympique de Marseille est plus vu à travers le globe. C'est une vérité.
Et il faut dire aussi que s'il n'y avait pas le Qatar, il n'y aurait pas Messi, il n'y aurait pas Ibrahimovic, il n'y aurait pas eu Neymar, il n'y aurait pas eu tous ces joueurs extraordinaires. Et Mbappé, c'est déjà parti en Espagne ou ailleurs.
Et même Nasser, pour rebondir carrément, je pense que la présence de ces stars en France a attiré d'autres stars peut-être dans d'autres clubs. On a eu des Fabregas à Monaco, on a eu Falcao à un moment. Il y a eu quand même d'autres.
Alexis Sanchez, même à Marseille, Lyon.
Voilà, il y a quand même, je pense que ça joue aussi aujourd'hui. Tu viens en Ligue 1, à l'époque, tu venais en Ligue 1, aujourd'hui, tu viens en Ligue 1, tu te dis, déjà, il y a le match contre le PSG.
Ouais.
Ça reste une affiche, ça peut donner envie. Effectivement, le Qatar, au-delà du PSG.
D'accord.
Encore une fois, je suis d'accord. Et tu l'as dit tout à l'heure aussi, Bilal, pour la France, ça a fait du bien.
Mais ça a fait du bien.
De toutes les manières, quand ça se passe devant notre nez, on fait toujours les aveugles quand c'est à 10 000 km ou à 5 000 km.
Ah ouais,
ben, au final, on est toujours en train de s'insurger. C'est fatigant. Et à un moment donné, si tu veux faire quelque chose, eh ben, tu peux pas le faire pour le Qatar 2022. Ben, déjà, mets-toi sur la prochaine Coupe du Monde qui fera Mexique, avec les pays qui sont triplés.
C'est pertinent.
Sur ce que dit Abdel. On critique beaucoup le Qatar, mais il faudrait qu'on regarde déjà juste en bas de la rue, vous voyez tous ces étrangers qui travaillent illégalement, qui font des choses incroyables dans des conditions précaires. Je pense que déjà, il faudrait déjà qu'on soit un peu plus sérieux chez nous avant d'aller regarder ce que se passe du côté de Doha, en sachant quand même que Doha nous apporte beaucoup. Il faut quand même être réaliste et regarder devant nous. Je pense que ça suffit.
Balayer devant ça. On va revenir à vous là.
Deux mois de la compétition. Alors, qu'on soit clair, je veux rassurer tout le monde. Après, c'est un avis strictement personnel. Mais si la France va loin et si ça se passe bien pour nous, on aura tout oublié. Si on rajoute la troisième étoile, toute cette histoire-là, ce sera du
passé.
Je rebondis sur ce que disait Abdel, on ne pourra plus que faire des petits ouvriers tu vois, du sous-continent indien qui sont morts dans les chantiers au Qatar.
Malheureusement. Le chiffre est énorme.
C'est vrai, comme Eric Cantona qui boycotte le Qatar, qui a boycotté. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait appel à lui en termes d'image, parce que bon, ça reste quand même une image.
Il l'a là un peu, parce qu'il a tiré un peu sur Beckham. Sur Beckham, son ancien coéquipier, il a un peu tiré dessus.
Le problème, c'est que Beckham, c'est une figure mondiale.
En termes de marketing, c'est exceptionnel.
Mais le Qatar, ils ont une façon de fonctionner par rapport à leur pays. Ils ont envie de partager leur savoir et leur savoir-faire en Europe.
Culture, ouais.
Et pour moi, ils ont pris le football parce que c'est l'opium de tous les peuples au monde. Et
c'est bien d'organiser une Coupe du Monde, Boula.
Oui, mais
quand même,
faut que tu saches que derrière le football.
Ah, ça va bien plus loin que le football.
Même si ça va plus loin que le football, aujourd'hui, c'est le sport où t'as de nombreuses personnes. Et eux, ils font de la politique avec ce sport. Parce que le sport, il est aimé par qui? Par les supporters. Par les supporters du monde. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu regardes les supporters du monde, aujourd'hui, t'as toutes les cultures ou tous les intellectuels qui sont même dans le football et qui s'accaparent le football pour faire de la politique. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, le Qatar a fait un choix de faire une Coupe du Monde.
Exactement.
Le message passe mieux, comme il dit Jason, après, par le football.
Après, on peut regretter quand même.
Alors, Alexis.
Par rapport à ce que tu disais, Boula, tout à l'heure, c'est que effectivement, c'est bien que la Coupe du Monde ne se fasse pas que en Europe ou que en Amérique du Nord. Mais moi, ce que je regrette à titre personnel, c'est que ce soit pas dans un pays de football. Et ça, je pense qu'on aurait pu trouver d'autres pays
qui
était prêt, des puissances pétrolières ou des puissances gazières et qui pourraient organiser
le
cette
Maroc est prêt. Je remercie quand même d'Alexis c'est là où il a raison, c'est que il y a pas mal de pays qui puisse avoir la Coupe du Monde. On a choisi le Qatar parce qu'il y a tout un business d'argent Il y a même, bien que à l'époque d'Ayatou, tout ça, ils ont tout fait pour construire le Qatar. Il y a tout un business. Ils s'en ont mis plein les poches. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais que les Américains, parce que c'était prévu pour eux la Coupe du Monde, et aujourd'hui
ils auront en 2026.
Le monde entier ne peut pas reculer en arrière par rapport au Qatar,
qui est toujours pas un pays de football.
Et en plus c'est vrai que là où je donne raison à Alexis, on peut défendre le Qatar, ils ont leurs valeurs religieuses. Bon, moi je suis musulman, mais moi je trouve
on a compris,
déjà c'est bien qu'un pays musulman reçoit une Coupe du Monde.
Mais pour le pays musulman, je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est un pays musulman qui est capable de bien arroser aussi. Donc à partir de là, c'est un bon point, mais malheureusement ça contrebalance un petit peu. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a une diversification. Pour moi, t'es pas devenu fan de football ou de handball comme ça. Tu te dis que on en a parlé plein de fois dans l'émission. T'as envie d'avoir ton petit bébé, t'as des sous, bah vas-y, je vais aller mettre des sous dans un club. Donc c'est facile maintenant.
Je suis d'accord. Est-ce qu'on se rend compte quand même ce soir que le Qatar a investi même en Angleterre, en championnat
anglais,
les Émirats,
City,
comment s'appelle
Manchester City,
en Espagne aussi,
Malaga, on n'a pas trop marché.
Non, Nasser, on va revenir. Allez-y, Nasser.
En fait, non, c'est parce que je voulais pas trop qu'on tire sur l'ambulance, voilà.
Non.
C'est fait.
Voilà, non, on va revenir, c'est
en fait,
promis.
En fait, la Coupe du Monde, elle est au Qatar.
Voilà.
Et puis ceux qui sont pas contents du côté de Bordeaux,
ils étaient là. Ça fait rien. Alors, on a une info, c'est officiel, ça vient de tomber. C'est pas de fan zone, excusez-moi, non plus à Paris. Voilà, la capitale française. On va revenir sur le Paris Saint-Germain, c'est promis. Allez, à de suite, vous restez à l'écoute de Beurre FM.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 38 minutes, toujours en compagnie de Nasser Jason. Boula est là avec Alexis et sans oublier notre consultant Abdel, justement. Abdel avec ses fameuses pépites du football, eh oui, qu'on pourra retrouver dès ce jeudi soir. Eh oui, ces pépites. Eh ben justement, comment faire? Parce que le Paris Saint-Germain, il fut une époque, on n'avait pas de pépites, hein. Ça sortait tous les décennies, c'est bien ça, Jason, hein. Et aujourd'hui, on en voit. Vois-tu là tous les jours, quoi. Non, c'est vrai. Après, le bassin parisien va bien quand même, hein. Il y a eu un effet.
Non, c'est vrai que l'arrivée des Qataris au niveau du PSG, ça a changé pas
mal
la structure.
Merci aux nouveaux investisseurs.
Après, ça, c'était déjà un centre de formation quand même très réputé en France.
Mais là, on peut les garder maintenant.
Voilà. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il y a les exactement, il y a les arguments maintenant pour les garder, même si il y en a qui deviennent de plus en plus gourmands et qui partent très vite.
Oui, bien sûr. C'est normal.
Ça, c'est français.
C'est le business.
C'est pas parisien, ça, c'est très français.
Oui, c'est français.
On part à 16 ans maintenant. On a le dernier exemple de Matisse Tel du Stade Rennais qui signe au Bayern après avoir joué 10 minutes en Ligue 1. Donc, enfin bref, on a plein d'exemples comme ça, mais c'est vrai qu'au PSG, pour revenir au sujet principal, encore une fois, l'arrivée des Qataris a pu vraiment restructurer et encore bonifier cette formation. Et puis on voit des
gens. Ils ont été avant-gardistes, excuse-moi de te couper, vis-à-vis des autres clubs. Voilà. On a vu une machine se mettre en place. Faut pas. Hein, on voyait même les Marseillais le dire, grâce aux Qataris. C'est vrai, ça a donné un effet, de booster, quoi. Ça a boosté tous les autres clubs dans leur façon de communiquer sur les réseaux sociaux. Faut pas le négliger. C'est une. Ça a été un peu un show à l'américaine, quoi.
Quand on parle du Qatar.
Oui, Boula.
On parle de la Coupe du Monde, mais quand tu regardes les salaires qui sont donnés aux joueurs.
On n'a jamais eu des salaires comme ça en France. Hein.
Aux joueurs entre.
Jamais, Boula.
Au Qatar, le salaire, c'est entre 2 millions et demi d'euros et 5 millions d'euros net par an. Moi, je trouve que même tu vois, le Qatar, ils ont tout fait pour faire venir de certains joueurs. Mmh. Mais.
Des joueurs en fin de carrière qui touchent des billets, enfin, c'est moi du terme, mais.
Après, c'est les Franco. C'est où il y a beaucoup, c'est des Franco-Algériens qui a beaucoup de. Qui peuvent, qu'en France, ils n'ont pas de marché. On leur donne un marché financier qui est intéressant aussi. C'est dans les deux cas. Mmh. T'as les Franco-Algériens qui peuvent pas avoir de marché en Europe, parce que quand tu leur proposes des contrats en France, ça va passer sur 8000 euros ou 9000 euros par an. C'est les marchés des Franco-Algériens. Mmh. Et aujourd'hui, si t'es Franco-Algériens, ils ont 27, 28 ans, s'ils sont au Qatar, c'est des marchés entre 2 millions et demi et 5 millions. Quand t'as 27, 28 ans, 29 ans, tu réfléchis à deux fois par rapport. Et c'est là que le Qatar, même zéro. Dans leur championnat, Ils n'ont pas de spectateurs. Déjà, je ne sais même pas. En tout cas, ça va être une Coupe du Monde de riches. Parce que.
Ça va sourire quand même. T'as intérêt d'avoir
beaucoup, beaucoup de moyens. Parce que déjà, il n'y a rien en location, appart, hôtel, tout ça. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il y a même des gens.
Il y a même des gens. L'express dans la même journée, ça va être un carnage dans le ciel.
Il y a même des gens qui vont louer à Dubaï. Exactement. Comme Dubaï, c'est 45 minutes en avion.
Aller-retour.
C'est à 600 km en voiture. Alors qu'aujourd'hui, des gens réservent aussi, même à Dubaï, comme c'est blindé de chez blindé. Alors je pense qu'il y aura une gestion qui sera faite dans le sens où.
La gestion, elle sera là.
Ça sera vraiment. Justement. Ne croyez pas que tout le monde peut aller au Qatar.
Tout le monde peut pas aller au Qatar. Moi, je suis un bon petit parisien, tranquillement. Je fais la fameuse émission qui est Time Sport sur l'antenne de Beurre FM. Et moi, comment je vais faire pour m'éclater, par exemple, avec Alexis, avec Abdel, avec Jason ou même Nasser? Et toi, Boula? Il n'y aura pas de fan zone dans la capitale française, la ville la plus visitée au monde. Après, comment faire? On va pas ouvrir des bars à chicha des brasseries quand même éphémères.
Après, il fera moins deux normalement.
Ouais, c'est ça, exactement. Fera
moins deux lors de la finale.
Mais les gens sortiront, tu le sais bien, Alexis.
Ou j'irai au bar.
Mais les gens sortiront pour se retrouver, pour s'éclater entre eux.
D'ailleurs, à Marseille, ils ont donné une justification pour pas de fan zone. C'est pas justement par rapport à tout ce qui s'est passé autour de la politique, c'est pour dire je préfère que les gens ils aillent dans les bars, qu'ils consomment pour faire vivre un peu l'économie. Et je trouve ouais. que c'est il faut noter quand même qu'à Marseille, ils font fait exactement.
Marseille, la mentalité de Marseille, ils sont mariés avec le football. Déjà, la ville de Paris, elle n'est pas mariée avec le football.
Bon, ouais. quand même.
Quand tu regardes.
Voilà, dans la capitale, il y a beaucoup d'amoureux de football.
Qu'elle a pas.
Ah non, mais la mère de Paris n'est pas mariée avec le football.
Moi, j'ai vu Tibéri, l'ancien maire de Paris.
C'est autre chose.
Je sais pas, il a 75 ans, 80 ans, il va encore au parc. Il est amoureux. Sens que le mec.
Madame Hidalgo aussi, il va au Parc des Princes.
Non.
Ouais. Non, c'est l'autre. Il se fait siffler au Parc des Princes.
Paris, c'est une vraie ville de foot. Et l'île de France, c'est une vraie région.
C'est vrai. Alain Nasser. Ouais, mais quand même.
Par rapport aux travaux qu'elle avait fait, Madame Hidalgo. Bon, pour revenir sur la fin de zone, c'est vrai que je le regrette parce que c'est quand même la France, hein, la capitale, quoi. S'il n'y a pas de fin de zone, ça veut dire quoi? Quel message on donne à Doha?
Et aussi pour notre équipe de France.
Pour l'équipe de France.
C'est vrai qu'il y a le risque qu'on se fasse à Rakiri parce que la Coupe du Monde, de toute façon, elle aura lieu. De toute façon, si la France est réussie, tout ce qu'on va réussir à faire, c'est à se mettre dans la difficulté vis-à-vis de l'investisseur qatari.
Exactement, on va se mettre à dos, franchement, le Qatar officiellement à partir de novembre.
Mais surtout pas pendant ces temps de crise. Ça sera difficile alors.
On veut tellement tout restreindre là, on a l'impression depuis quelques années que on a plus envie que les gens ils se retrouvent. Alors c'est bête, hein, mais on est sorti de 2 ans de Covid et tout, donc les gens étaient cloîtrés chez eux. Là t'as même plus l'occasion de sortir pour juste des gens passionnés qui se retrouvent, avec même des inconnus. L'Euro 2016 c'est très bien passé en France avec tout le monde. Alors que c'était organisé sur notre sol, il y avait pas de souci. Et là, on a envie toujours. Moi, ça me fatigue. C'est pour ça que je déteste un peu. Pour moi, c'est l'extra sportif. Ça a rien à faire autour de plateau entre guillemets. Je parle de manière générale parce que ce qui est le plus important, tout le monde, on va arrêter d'être hypocrite, va regarder la Coupe du Monde à 99%.
Bien sûr,
même les matchs à 16h qui vont être là. Donc à partir de là,
des postures, faut arrêter on va tous regarder. Il y aura des postures, des mecs dans les discussions en public ou sur les plateaux qui vont t'expliquer qu'ils vont pas regarder. Mais si si t'es une petite souris et tu vois le soir dans leur salon, je peux te garantir qu'ils seront devant les matchs. Hein.
Non, c'est clair que. Et puis, ça reste quand même une expérience nouvelle. C'est du jamais vu. On va regarder une Coupe du Monde, il fera moins 2.
Ouais.
D'habitude, c'est.
Il fera nuit tôt.
Il fait beau, les gens, ils sont débardeurs, torse nu, bière. Enfin, on se rappelle, Coupe du Monde en Allemagne en 2006, c'était une fête incroyable.
La folie, ouais.
En Afrique du Sud, je t'en rage avec les vouvuzelas, ouais, c'était bordel.
C'est bien, c'est
tout le monde a adoré.
En 2014
au Brésil, on n'en parle pas. Bon, on a eu la Russie aussi, c'était pas mal.
C'était super.
On passe en hiver, on se demande, mais en vrai, on se demande, mais à quoi ça va ressembler? Entre ceux qui font grève, ceux qui sont pas contents, ceux qui vont sortir du travail, il va faire nuit, tu vas regarder un match, il fait nuit, il fait
bruit. Cool. Et puis tu choisiras ton
smartphone. Avec le chocolat chaud.
Ah bah ouais.
Ça va pas être bière cette année, ça va être chocolat chaud.
Et pour les joueurs, d'un point de vue sportif, c'est qu'on va se retrouver avec un nombre de blessés sans doute, après, je sais pas, mais qui va être incroyable parce que c'est pile dans la période des blessures.
C'est une expérience mondiale, ça va être
quelque chose, c'est absolument inédit.
Le Paris Saint-Germain sera champion d'Europe.
Est-ce que
sera champion d'Europe? Voilà, pourquoi pas.
Et puis pour rebondir sur le PSG.
Eh oui, le Paris Saint-Germain, le Galtier.
Il y a les fameux. Il n'y a pas des joueurs actuellement, par exemple au Paris Saint-Germain, on parle d'un Neymar en super forme, Messi.
Il est pas mal, Neymar.
Est-ce que c'est pas pour le mondial? Qu'est-ce qui se passe après le mondial?
Alors,
si Messi gagne la Coupe du Monde, est-ce qu'il revient les mains dans les poches? Est-ce qu'il continue?
Et s'il la perd? Et s'il la perd jusqu'à juin, c'est ça.
Allez, Nasser, peut-être il a la réponse.
Il y a plein de questions.
Mais s'il la remporte, Neymar, même Mbappé.
C'est un grand professionnel. La Ligue des Champions, on ne peut pas faire une impasse sur la Ligue des Champions. Là. C'est comme la Copa Libertadores.
Mais son rêve ultime, c'est la Coupe du Monde. On sait qu'au final, il joue pour la Coupe du Monde.
Mais c'est comme Neymar. Vous avez vu leur condition physique aujourd'hui. Elle est extraordinaire. Les deux marchent sur l'eau. Même Mbappé.
Mais après le Mondial.
C'est vrai que j'ai plus de doutes sur Neymar que sur Messi.
Après le Mondial. Admettons, un des deux gagne la Coupe du Monde. Comment ils reviennent? Parce que c'est leur rêve ultime.
Les trois, ils ne vont pas gagner. Donc il y en aura forcément.
Moi, ce que je regarde dans Neymar et Messi, ça fait 2 ans qu'ils sont au repos. Eux, ce qu'ils vivent,
c'est le mondial.
C'est le mondial.
Ils attendent que ça. Maintenant,
eux, ils respectent leur maillot de cœur au niveau de leur pays.
Oui, par contre, nation.
Au PSG, je pense qu'ils font pas. Parce que là, quand t'as un Mbappé qui rentre et qui fait la différence. Fait la différence tout de suite. Il était remplaçant. On parle beaucoup de Messi et Neymar.
Forcément.
Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que Kylian, quand il rentre, faut pas oublier Kylian, parce que Kylian, ça reste quand même un joueur.
Pas l'oublier.
C'est compliqué. Parce qu'on parle même les médias, on parle Mais pourquoi on parle plus de Messi et, parce que Messi
et
Messi et Neymar, ça reste des, en termes d'image et en termes de com, c'est des mecs qui dérangent pas par rapport à truc. Quand je vois un mec comme Kylian, lui c'est quelqu'un qui dérange par rapport à sa fédération, par rapport. Mais quand il fait ça, il a une idée.
Ah bah oui.
Il a une bonne. Non mais il a une bonne. Parce c'est que l'idée de Kylian, c'est qu'il a pas oublié d'où qu'il vient. Parce que l'argent.
De Bondy.
L'argent qu'il gagne dans les droits d'image, ça va peut-être revenir à des clubs,
Qatar.
À des sections.
L'argent du Qatar.
Non, mais même l'argent du Qatar. Non, la différence, c'est que lui, lui va peut-être l'utiliser à bon escient.
Ouais.
Il va peut-être l'utiliser à bon escient.
Les bienfaits du Qatar en France.
On termine avec Alexis.
Parce qu'il y a un truc qui est bien chez. Il y a un truc qui est bien chez Kylian, c'est qu'il a un côté social.
Alors.
Dans sa façon de parler, dans sa façon d'exprimer.
Oui, Alexis, on termine avec toi.
La justification qui irait dans le
avant la dernière rubrique.
C'est que Messi et Neymar, ils sont vraiment en mission. Kylian, on peut dire qu'il a déjà gagné. Messi, lui a fallu 3 finales pour gagner la Copa América. Neymar, il y a encore le traumatisme de 2014 où il est blessé et où il finit pas.
Ils attendent la 6e, quoi.
Et voilà, c'est ça.
Tous la 6e.
Là, je pense que les deux, ils sont en mission et c'est peut-être pour ça qu'on parle plus d'eux que de Kylian qui l'a déjà gagné malgré son jeune âge.
Allez, la dernière rubrique de cette émission avec tout le monde.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, on va parler de FIA, la Formule One, c'est ça, la Formule One, c'est ça, côté de jeu qu'on avait. Il est toujours, il existe, hein, sur Play, hein.
Oh, bien
c'est
sûr, bien ça,
bien sûr.
Sûr
hein,
oui.
Mythique. Max Verstappen.
T'as acheté le volant
chez.
Ouais,
là, c'est. Je l'avais. J'étais un bon pilote. Ouais. Il y a eu zéro plaisir, justement, du côté de ce Grand Prix de Singapour.
Qui dit ça, Bilal?
Ah ben c'est Max Verstappen, le néerlandais. Oui. Justement, il disait ça. On va rappeler un fait rapidement. C'était Red Bull a confirmé juste après la qualification, les qualifications à Singapour, qu'elle a dû interrompre l'excellent dernier tour de Max Verstappen, car il n'avait plus assez d'essence pour garder le kilo nécessaire réglementé par la FIA pour les vérifications techniques. C'est vrai qu'il en a voulu à son écurie avec ça.
Ça arrive. Enfin, il faut voir la saison, par exemple, que fait Ferrari au niveau des stratégies, c'est catastrophique. Donc
là aussi, on en parlait la semaine dernière.
Donc, je pense que chez Red Bull, franchement, ils sont plutôt bien lotis.
Ouais.
La Formule 1, avec toutes les réglementations, parce que sinon, on peut revenir à l'époque de Schumacher où on rechargeait les voitures en carburant pendant la course. C'était du grand n'importe quoi. Où c'était des fusées. Voilà, là, il y a un aspect réglementaire qui rentre justement dans la stratégie. Et je trouve que ça amène quelque chose. Alors, oui, là, ils se sont gaufrés ce week-end, mais qui se rassure, Verstappen, il fera le deuxième titre de suite. Enfin voilà, il faut aussi raison garder. Après, il est jeune, il est impulsif, on le connaît.
C'est normal. C'est Kylian Mbappé version Formule 1.
C'est ça.
Il y a une réaction, on va dire un peu. Comment on appelle ça? J'ai le mot, il m'échappe.
Il échappe. Il échappe, mais on a plus trop de temps.
C'est rapide. Elle est un peu trop grosse par rapport à ce qui s'est passé. Je pense qu'aussi il est un compétiteur, donc le fait de finir à cette place, ça le met un petit peu hors de lui. Mais après voilà, je pense qu'il y a d'autres problèmes qui ont été à notifier, notamment sur le fait que depuis l'année dernière il y a un cap qui a été demandé 145 millions de dollars à ne pas dépasser et il y a une affaire qui est en train de s'ouvrir, donc à partir de là je pense qu'il a voulu mettre un peu la lumière ailleurs plutôt que sur cette histoire qu'il ne met pas dans le beau drap.
Allez, merci Abdel, merci Jason, sans merci oublier Boula et Alexis, un grand merci à Nasser.
Merci,
Nasser, de nous avoir rendu visite. Le pilote de la F1 qui vous a le plus marqué, Nasser?
Moi, je suis plutôt Hamilton, moi.
Hamilton, je croyais que vous allez dire Ayrton Senna.
Non.
Ayrton Senna, non?
Si, Ayrton Senna, c'est quand même une légende et puis il nous manque beaucoup, c'est vrai. Que,
voilà, c'est incroyable. Senna, voilà. Et ça, Alexis. Prost aussi, il était pas mal.
Ah, Prost, il est bon.
Ouais. Et Mika Schumacher, sans oublier Mika Hakkinen. Allez, on se donne rendez-vous dès demain avec toute l'équipe. Un grand merci, je le rappelle, à Nasser de nous avoir rendu visite, à Boula, Alexis, et sans oublier Abdel et Jason. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM à 21h. Elle arrive, c'est Vanessa, jusqu'à 23h. Bye bye, bonne soirée à toutes et à tous.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.